Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Chaque année, la déclaration d'impôt, c'est la rentrée des classes des adultes, quoi. C'est avec leurs cases, là. Qui a inventé le nom des cases? 1AJ, 5HQ. Mais c'est les impôts, c'est une bataille navale, ton merdier, là.
Ah, les joies de la déclaration d'impôt, ça me fait penser qu'il va falloir m'y mettre. Et petite info pour Naïm, la case pour la réduction d'impôt pour les dons à une association, c'est la case 7UF. Mais attention, il y a aussi la 7UD et la 7UJ. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Et vous l'avez sans doute compris, on va parler aujourd'hui de la générosité des Français, qui malgré l'inflation reste très élevée. Et comme on est généreux nous aussi à La Story, on va le faire en deux épisodes.
Merci madame, bonne journée à vous. Merci.
Chloé a du travail, bénévole à la banque alimentaire. Elle recueille les dons de particuliers pour les futurs bénéficiaires des denrées de base vitales.
On a énormément de pâtes, de féculents, de choses qui se gardent beaucoup. Et pas mal de produits pour les bébés.
Vous les avez peut-être croisés en allant faire vos courses ce week-end, les bénévoles de la banque alimentaire qui organisait sa collecte de printemps du 26 au 28 avril, notamment à Paris et en région parisienne. L'automne dernier, les 110 000 bénévoles de l'organisme avaient récolté l'équivalent de 18 millions de repas en 3 jours. Avec l'inflation, les besoins ont augmenté, constat partagé aussi par les Restos du Cœur. Mais qu'en est-il des dons? Les Français restent-ils généreux dans un contexte économique plus incertain? La Fondation des apprentis d'Auteuil vient de publier son baromètre de la solidarité. Et ses enseignements sont intéressants, d'autant qu'ils confirment la tendance entrevue ces dernières années. On va en parler avec le responsable de la collecte dans un deuxième épisode de La Story. Mais avant, en cette période de déclaration d'impôt, j'ai appelé Sébastien Dumoulin, journaliste au service France des Échos. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierrick.
Spécialiste des questions de fiscalité aux Échos. Alors je ne vais pas vous demander de m'aider à remplir ma feuille d'impôt. La saison, c'est vrai, a démarré. Mais quand on cherche à payer moins d'impôts, le don, ça reste une solution?
Dans une certaine mesure, oui, tout à fait. Vous pouvez déduire de vos impôts une partie des dons que vous effectuez à des associations ou des fondations d'utilité publique. Et donc, la règle générique, c'est que si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, parce que faut pas oublier qu'il y a un ménage sur deux qui ne paye pas l'impôt sur le revenu, donc ils pourront pas déduire de ces impôts qu'ils ne payent pas les dons qu'ils effectueraient éventuellement. Mais si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu et que vous faites des dons à des associations, vous pouvez déduire les 2/3 du montant que vous avez versé, donc soit 66%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites un don de 100 €, par exemple, vous pouvez demander à déduire 66 € de vos impôts, ce qui fait que ce que vous avez réellement à votre charge, c'est le reste, c'est 33 €. Ce qui fait que pour beaucoup d'associations qui disent que finalement, il ne faut pas l'envisager comme une façon de réduire ses impôts, mais plutôt d'une part de flécher vos impôts, c'est-à-dire que vous décidez où est-ce que les sommes que vous payez avec vos impôts vont aller, qu'est-ce qu'elles vont financer. Donc il y a une partie de votre IR, c'est limité d'ailleurs, c'est limité à 20% de votre revenu imposable, mais finalement ces 20%-là, vous pouvez dire, bah moi je veux que ça aille au Resto du Cœur, ou moi je veux que ça aille à une association de football du quartier, ou etc. Et donc pour les associations, c'est très important, et ce qu'elles disent quelque part, c'est que plutôt que de considérer que quand vous donnez 100, finalement, vous n'allez payer que 33, vous pourriez aussi vous dire, bah moi, Pierrick, j'ai décidé que j'allais donner 100 € à telle association, bah, finalement, je vais faire un don de 300 et il y en aura 200 qui seront pris sur mes impôts et moi, ce que je vais effectivement donner à l'association, ça sera 100.
Alors on va parler dans quelques minutes du baromètre de la générosité établi par la Fondation des Orphelins d'Auteuil, mais on a aussi des données autres sur la générosité des Français. Il y a une étude notamment sortie fin 2023, Sébastien, du réseau Recherche et Solidarité, qui a travaillé sur le sujet avec Bercy, et vous expliquiez récemment dans Les Échos qu'elle a provoqué un soulagement au sein des associations qui font appel aux dons. Pour quelles raisons ?
Eh bien, parce que sur l'année 2022, ça vous a pas échappé que l'inflation a été très forte. Les prix dans les supermarchés ont soudainement augmenté en raison de la guerre en Ukraine principalement et donc de la crise énergétique qui a suivi. Et donc la crainte des associations, c'était que les gens, voyant que leur salaire n'augmentait pas aussi vite que les prix et qu'à la fin du mois, il leur restait toujours moins sur leur compte en banque, eh bien, décide de réduire les sommes qu'il donnait à des associations. Et cette crainte ne s'est pas matérialisée, en fait. C'est là qu'a été le soulagement. C'est que en 2022, il y a effectivement eu une forte inflation, 5,2% selon l'INSEE, qui a fortement pesé sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais les dons, eux, ont augmenté davantage que l'inflation. C'est-à-dire que non seulement les Français n'ont pas donné moins, ils auraient pu donner l'équivalent, c'est-à-dire augmenter leurs dons de 5,2% pour suivre l'inflation, si vous voulez. Et ils ont donné davantage. Ils ont donné 6,3% de plus en 2022 qu'en 2021. Et en fait, tous les indicateurs ont été à la hausse. Il y avait plus de donateurs. Il y avait un don moyen qui augmentait. Donc finalement, la crainte ne s'est pas matérialisée. Et au contraire, on s'est rendu compte que la période de difficultés financières que vivaient beaucoup de Français s'est traduite par un regain de générosité.
Gentil, Hobbit. C'est généreux de votre part. Oui, très généreux. Vraiment, Gollum.
Je voulais peut-être juste rajouter une chose, Pierrick. C'est que cette crainte des associations, elle est aussi liée au fait qu'ils sont un peu échaudés par ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est-à-dire que, vous vous en souvenez peut-être, mais en 2017, quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, une de ses promesses de campagne, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune, l'ISF. Et l'ISF bénéficiait également d'un mécanisme de réduction d'impôts. Et donc, pour les associations, ça générait beaucoup de dons, en fait. Et donc, le fait que cet impôt disparaisse, faisait craindre aux associations que la défiscalisation disparaissant avec l'impôt, tout d'un coup, ils se retrouvent avec un trou dans la caisse. Et cette crainte-là, elle s'est effectivement matérialisée. Et tout d'un coup, d'une année sur l'autre, en fait, avec la disparition de l'ISF, ça représentait 270 millions d'euros en 2017. Et soudain, ils se sont retrouvés avec 112 millions d'euros. Il y a deux tiers de cette collecte-là qui a disparu d'un coup. Ça a été assez dur à supporter, en fait, pour les trésoreries des associations. Et donc, tout changement, soit des règles, soit macroéconomique, de la conjoncture, les rend assez fébriles. Parce qu'en fait, pour la plupart des associations, le don, ça reste la première source de financement.
L'ISF a depuis été remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et depuis, le choc de la disparition de l'ISF se résorbe, selon Recherche et Solidarité. En 2022, les dons déclarés au titre de l'IFI ont atteint 203 millions d'euros, presque le double de 2018. Sébastien, est-ce que ce réseau donne aussi des indications sur les structures qui en profitent le plus?
Alors, les structures qui en profitent le plus, je peux vous donner le classement qui a été établi en 2022. Pour la première fois, la Croix-Rouge arrivait en tête des dons collectés, ce qui est sans doute lié à la crise ukrainienne, en fait, qui a motivé les gens à donner beaucoup pour les réfugiés. Et ensuite, on a beaucoup d'associations de soutien, en fait, aux personnes en difficulté qui sont très connues du grand public. On a les Restos du Cœur qui arrivent en deuxième position, le Secours catholique en numéro 3. Ensuite, on a des thématiques médicales aussi avec l'Association française contre les myopathies ou humanitaires avec MSF, l'UNICEF, Médecins du Monde. Ce qui est intéressant de signaler, c'est que contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas forcément ces grosses associations qui récupèrent la quasi-intégralité des dons. Si on regarde le cumul des 5 premières collectes, donc les grandes associations dont je vous parlais, c'est moins de 10% de ce qu'ont donné les Français en 2022. Et si on regarde les 40 premières, c'est en gros un quart de la collecte. Donc ça veut dire qu'il y a 3/4 des sommes collectées qui sont assez bien répartis sur toutes les autres associations et fondations.
Un gigantesque incendie vient en effet d'éclater en fin d'après-midi. Les images sont extrêmement impressionnantes. Le toit est en feu et la flèche vient de s'effondrer.
Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 5 ans, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, un événement qui avait profondément marqué dans le monde entier. Sébastien, est-ce qu'il y a un effet Notre-Dame sur les dons ?
Est-ce qu'il y a encore un effet Notre-Dame ? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a eu un effet Notre-Dame ? Ça, c'est certain. On se souvient qu'après l'incendie, il y avait eu un afflux de dons, un peu sans précédent dans le secteur. De mémoire, en quelques jours, c'était quasiment 900 millions d'euros, sans compter les différentes offres de mécénat. Quand vous comparez ce montant au montant de 3 milliards qui est déclaré en dons défiscalisés à titre de l'impôt sur le revenu, vous voyez que c'est quasiment un tiers de ce montant-là. C'est gigantesque. Ce que ça a provoqué aussi, je pense, c'est une prise de conscience de la fragilité du patrimoine et des difficultés à financer la rénovation, notamment sur le patrimoine religieux. Il y a beaucoup d'autres édifices, en fait, qui étaient moins visibles que Notre-Dame et dont on a dit que c'était un peu injuste, en fait, que tous ces fonds aillent vers la rénovation de la cathédrale de Paris et qu'à côté, il y ait plein d'édifices beaucoup moins connus, mais sans doute pas aussi importants, mais sans doute également importants pour le patrimoine culturel français qui, eux, sombrent dans le délabrement sans bénéficier des fonds nécessaires à les remettre en état. Et on voit que ce que ça a provoqué, c'est notamment dans la loi de finances là, qui a été votée au Parlement à l'automne, il y a une mesure qui a été prise qui permet de défiscaliser encore davantage les dons qui sont faits à des organisations qui s'occupent justement de la rénovation du patrimoine. Donc au lieu de 66% dont je vous parlais tout à l'heure, ça monte à 75%. Alors c'est capé, c'est dans la limite de 1000 euros, mais ça permet de flécher davantage les dons vers ces associations particulières. Ça me permet de dire qu'il y a un autre amendement qui avait été passé au moment de la crise sanitaire et qui est toujours, qui a été reconduit depuis, qu'on avait appelé l'amendement Coluche, qui permet également de monter le montant de défiscalisation à 75%, toujours dans la limite de 1000 euros, mais cette fois-ci pour les associations qui viennent aux personnes les plus démunies.
D'ailleurs, il y a une date limite pour les bâtiments religieux, le 31 décembre 2025. Le patrimoine visé est celui appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de moins de 10 000 habitants en France métropolitaine ou de moins de 20 000 habitants en Outre-mer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Fondation du patrimoine. Alors Sébastien, il y a un autre élément intéressant dans l'étude, c'est l'âge des donateurs.
Absolument, c'est quelque chose de... Alors je ne sais pas si c'est surprenant, moi ça m'a surpris en tout cas, c'est que les jeunes sont plutôt des gros donateurs. Alors des gros donateurs pas forcément en valeur absolue, c'est-à-dire qu'ils ont forcément moins de patrimoine et moins de revenus que que leurs aînés, et donc ils sont peut-être pas en mesure de donner des sommes aussi importantes, mais quand on rapporte les sommes qu'ils donnent précisément aux revenus qu'ils touchent, ils sont plutôt très généreux. C'est-à-dire qu'ils donnent 2,5% de leurs revenus en moyenne chez les moins de 30 ans, alors que c'est moins de 2% pour les personnes entre 30 et 70 ans. Donc, ils sont déjà très généreux quand on regarde ces chiffres-là, et d'autant plus quand on sait qu'ils sont assez peu nombreux à être imposables au titre de l'impôt sur le revenu, et que donc la majorité de leurs dons et même pas peut-être recensé dans ces 2,5% parce que ce sont des dons soit qui sont pas déclarés aux impôts dans le cadre de l'impôt sur le revenu, soit qui sont des dons de la main à la main, soit qui sont des arrondis en caisse, etc. Et tous ces dons non déclarés, les jeunes sont susceptibles d'en faire davantage que leurs aînés également.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'ARC, l'Association pour la recherche sur le cancer, sévèrement épinglée par la Cour des comptes. Ce sont nos confrères de Libération qui ont révélé ce matin les grandes lignes du rapport des magistrats qui révèle, entre autres, que 27% seulement des sommes engagées par l'ARC en 93 ont concerné l'aide à la recherche.
Les plus jeunes ne s'en souviennent sans doute pas, mais il y a 30 ans, éclatait le scandale de l'ARC, comme on l'entend dans cette archive de l'INA. De quoi s'agissait-il ?
Ça a été un scandale absolument retentissant des années 90. L'ARC, c'était une association qui finançait la recherche contre le cancer. Et en fait, ce dont on s'est aperçu par des enquêtes administratives, une enquête de la Cour des comptes et surtout des articles de presse en vérité, c'est qu'elle était extrêmement mal gérée. Il y avait environ un quart seulement des fonds collectés qui allaient à la recherche contre le cancer. C'est-à-dire que trois quarts, c'était... le fonctionnement de l'association, sa publicité, etc. Et dans le cadre de ce fonctionnement, il y avait des surfacturations, des commissions à justifier, des malversations, des détournements de fonds. En gros, les centaines de milliers de Français qui faisaient des dons pour financer la recherche contre cette maladie terrible qu'est le cancer se sont rendus compte avec consternation qu'en fait, ils finançaient le train de vie d'une poignée de dirigeants de l'association. Le fondateur de l'ARC, Jacques Crosemary, a été condamné dans cette affaire à 4 ans de prison. Mais ça ternit durablement l'image du milieu caritatif français et ça a poussé aussi l'État à être plus regardant et la société à être plus regardante sur le fonctionnement des associations et les associations elles-mêmes à être beaucoup plus vigilantes et à être beaucoup plus transparentes vis-à-vis de leurs donateurs et vis-à-vis du grand public.
Ouais, un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que la générosité des Français, c'est un appel aux arnaqueurs de tout poil. Justement, que fait le législateur pour éviter les dérives ?
Alors, d'une part, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place par les associations et les fondations elles-mêmes. Il y a des initiatives privées de labellisation. Il y a aussi beaucoup plus de communication qui est faite à destination des donateurs, mais ça suffit pas. J'ai envie de dire, vous avez beau déclarer la main sur le cœur que vous respectez les limitations de vitesse, c'est quand même bien qu'il y ait un gendarme. Et donc, dans la suite de l'affaire du scandale de l'ARC dont on vient de parler, l'État avait confié à la Cour des comptes la mission de se pencher justement sur le financement du milieu associatif. Et c'est une mission dont cette haute juridiction administrative s'acquitte depuis. J'ai rencontré récemment les magistrats financiers qui se chargent de cette mission depuis ces dernières années et à l'occasion de la présentation d'un rapport justement sur leur travail. Ce dont on peut être surpris, c'est finalement le petit nombre de véritables contrôles, parce que disait que ces 20 dernières années, c'est 51 missions de contrôle. Donc on se dit qu'à l'échelle du nombre de structures concernées, du nombre d'années pendant lesquelles ces contrôles ont eu lieu, c'est peut-être relativement faible. Mais cela dit, toutes les plus grandes structures qui touchent plus de 10 millions d'euros de dons par an ont déjà été contrôlées. Certaines le sont quasiment chaque année. Et il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les magistrats de la Cour des comptes disent très clairement qu'ils ont vu une amélioration sensible dans le temps de la façon dont les comptes sont tenus, de la façon dont les associations et les fondations communiquent à destination de leurs donateurs et justifient le fait que les fonds qu'ils touchent sont bien employés majoritairement pour la cause qu'ils disent défendre et pas pour une autre, ni pour leur fonctionnement ou leur publicité. La Cour des comptes note que, globalement, le milieu associatif et caritatif français est de mieux en mieux dans les clous et de plus en plus transparent. Donc c'est plutôt rassurant.
Gendarmerie nationale, vos papiers, papiers du véhicule, s'il vous plaît.
Pardon, je relais trop vite, excusez-moi.
Ah, il faut des gendarmes, mais que serait la gendarmerie sans les sanctions ? Il y en a, mais sont-elles suffisantes, Sébastien ?
Alors, on peut le voir comme un motif de satisfaction. D'abord, c'est que la Cour des comptes n'a donné que 5 cartons rouges en plus de 20 ans. Donc, quelque part, ça veut quand même dire que, globalement, ça se passe bien et même très bien. Cela dit, effectivement, la Cour des comptes se plaint que lorsqu'elle sanctionne, parce qu'elle considère que les règles ne sont pas respectées, notamment sur ce problème dont on vient de parler de l'affectation des fonds, en fait, ce qu'elle peut faire, c'est pas directement sanctionner l'association concernée, mais c'est émettre un avis qui ensuite est transmis à Bercy. Et en fait, généralement, cet avis n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire que le ministre reçoit la recommandation de la Cour des comptes et il est un peu réticent à prendre la seule sanction qu'il est en mesure de prendre, qui serait de dire bah j'enlève l'agrément à la structure qui lui permet de bénéficier de la défiscalisation. Et donc, à partir du moment où la Cour des comptes m'a dit que cette structure ne fonctionnait pas bien, eh bien, je l'empêche de profiter des dons défiscalisés. Et pourquoi est-ce que les ministres sont très réticents à faire ça ? Parce qu'en fait, c'est un arrêt de mort pour les structures concernées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur dit, par contre, vous pouvez continuer à recevoir des dons, mais les personnes qui vous donnent, elles ne pourront pas déduire 66% des sommes de leurs revenus. Ce qui se passe, c'est que on l'a vu dans une situation où la sanction a effectivement été rendue et la structure en question, qui s'appelait Lucicaire, s'est placée en redressement judiciaire et donc elle a mis la clé sous la porte. Parce qu'en fait, c'est trop brutal. Et donc, ce que dit la Cour des comptes, c'est que c'est sans doute un peu trop noir ou blanc. Et si on veut pouvoir redresser la barre avec des associations qui ne sont pas suffisamment vigilantes dans leur utilisation des fonds, il faut permettre d'avoir des sanctions graduées et peut-être de dire vous n'avez pas été assez carré, on vous sanctionne, mais on ne vous sanctionne pas au point de vous retirer complètement le bénéfice de la défiscalisation. On pourrait le faire que partiellement. Il y a des choses à envisager pour que les sanctions soient plus progressives et donc peut-être plus effectives parce que davantage mises en place.
Merci Sébastien Dumoulin, spécialiste de la fiscalité aux Échos. On se retrouve tout de suite pour un deuxième épisode de la story avec les apprentis d'Auteuil et leur baromètre de la solidarité. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.